écoutez, cette fois-ci, je crois qu'il est l'heure. Et donc, je suis très heureuse de vous accueillir nombreux pour cette soirée sur le thème stoïcisme et christianisme, de la connivence au malentendu. Je présenterai brièvement nos orateurs avant de leur laisser la parole. Jacqueline Lagré a été professeure longtemps à l'université de Rennes 1, mais elle continue, j'ai vu, à donner des cours, par exemple une lecture de Montaigne, il me semble, pour janvier, là, ce mois de janvier. Et surtout, vous avez donc beaucoup publié, vous continuez à publier. Je ne donnerai que quelques-uns des titres que j'ai pu trouver sur votre blog, que j'invite tout le monde à visiter. Et ceux qui sont en relation avec le thème de ce soir, notamment le néo-stoïcisme, hein, publié chez Vrin en 2010, ou encore Juste Lips et la restauration du stoïcisme, qui était alors nettement plus ancien, en 1994. Mais vous vous intéressez aussi de façon plus large à la religion. Donc il y avait l'ouvrage publié chez Colin sur la religion, mais Spinoza et le débat religieux en 2004. Et à beaucoup d'autres choses que je vous laisse découvrir en visitant son blog. Et donc, avec la philosophe qu'est Jacqueline Lagré, vous avez un théologien, donc Patrick Goujon, qui est bien connu dans cette maison pour ceux qui la fréquentent de façon habituelle, qui enseigne la théologie ici et qui est directeur du premier cycle. Donc, ces centres d'intérêt rejoignent aussi ceux de Jacqueline Lagré, puisque Patrick s'intéresse beaucoup à la théologie, à la littérature de l'époque moderne, 16e, 18e siècle. Il s'intéresse très particulièrement à la spiritualité ignatienne. Je pense que vous savez pour la plupart que sa thèse s'intitule « Prendre part à l'intransmissible, la communication spirituelle à travers la correspondance de Surin », donc et qu'elle a été publiée chez Jérôme Mignon. Et puis, depuis la rentrée, il co-dirige le séminaire « Pratique et discours spirituel au XVIIe siècle » de l'EHESS avec Pierre-Antoine Fabre. Alors, nos deux intervenants vont jeter des regards complémentaires, vu leur formation et puis leurs échanges préalables, sur cette question. Je suppose que, comme moi, vous avez constaté qu'on voyait fleurir sous forme de collection de poches souvent, tel ou tel ouvrage de stoïciens anciens, comme si on avait besoin de l'art de vivre que nous procurent ces livres anciens. Mais d'un autre côté, il me semble que l'écart entre christianisme et stoïcisme s'est largement accru, pour ne pas dire que c'est un fossé considérable. Et pourtant, il importe de savoir qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et pour ceux qui sont familiers de l'époque patristique notamment, il est clair qu'il n'en était pas du tout ainsi. Alors il me semble intéressant, et c'est ce que nos conférenciers de ce soir vont nous présenter, de découvrir un peu ce qu'a été cette histoire des idées dans le rapport entre stoïcisme et christianisme, et de comprendre peut-être pourquoi la situation s'est ainsi retournée. Mais je leur laisse sans plus attendre la parole. Donc, dans un premier temps, ils parleront l'un et l'autre avant d'échanger avec la salle. Merci.
Lorsque Henri Lowe, ici présent, m'a proposé de conduire un atelier de master au Centre Sèvres, j'ai tout de suite accepté. Pas parce que c'était le Centre Sèvres, mais parce que si j'avais eu l'occasion de faire un cours et puis ensuite un livre sur le néo-stoïcisme, je ne m'étais jamais interrogée sur la relation entre une philosophie plus ancienne, puisqu'elle s'origine dans le IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais elle a connu son essor à la période hellénistique, c'est-à-dire au premier siècle après, donc entre une philosophie et une religion qui a pris son essor à la même période. S'il y a eu des chrétiens stoïciens, et on en reparlera, quoiqu'il n'y ait pas eu de grand maître de l'école stoïcienne qui fût chrétien, et Marc Aurèle fut même un adversaire des chrétiens, le stoïcisme est-il compatible avec le christianisme? Entre cette religion et cette philosophie, il y eut certes des connivences, des rapprochements, mais est-ce que ça n'a pas été au prix d'un malentendu de plus en plus sensible au cours des siècles? Je commencerai par une histoire personnelle et quelques remarques éditoriales avant de prendre différentes époques de cette relation. Dans les années 90, Je me rendais un soir chez un ancien élève, Philippe, qui était devenu un ami très proche. Et pendant qu'il me tournait le dos pour mettre sur le pick-up un disque de Shostakovich, j'ai pas oublié, je lui demandais « comment tu vas ?» Et il me répondit d'une voix égale « Je suis séropositif depuis 3 mois. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il me répondit « Je relis Sénèque. » Cette réponse me laissa muette. Elle interdisait évidemment tout commentaire apitoyé, toute plainte, toute faiblesse. À la suite de ça, nous nous sommes revus souvent pour parler de livres, de philosophie, de stoïcisme, jamais de la mort, qu'on savait proche, et parfois de Dieu. Un jour, il me fit téléphoner par un ami de prévoir un texte à lire à sa messe d'enterrement. « Quel genre de texte ?» demandai-je. « Un texte de philosophie, » me fit-il répondre, « susceptible de parler à tous. Un texte qui apaise et qui élève l'âme de ceux qui seraient venus écouter une dernière fois autour de son cercueil une cantate de Bach, la prose de Pascal. Un texte de philosophie parce que, pensait-il, la philosophie, c'est la vie, plus intensément vécue d'être plus lucidement réfléchie. » Et moi, je réfléchis longtemps. Un texte chrétien ou un texte païen? Un passage de Sénèque? Mais il l'avait beaucoup lu. Il aimait trop le grec pour que je ne choisisse pas un texte grec. Ce fut donc Plotin et la danse du cœur délivrée de la pesanteur du corps autour du coryphée dans l'Énéade 6-9 sur l'un et le bien. 10 à 15 ans plus tard, lorsque je commençais à travailler sur le néo-stoïcisme et plus précisément sur les sources stoïciennes de la religion naturelle, ce qui était mon sujet de thèse, je fus frappée par 2 choses. Le traité de Juste Lipse sur la constance, qui défend une position strictement stoïcienne face aux malheurs du temps, les guerres de religion, la famine, la peste, c'est la fin du XVIe siècle, fut traduit en français très tardivement par Lucien Dubois en 1873 et publié en France à ce moment-là. Et dans sa notice introductive, le traducteur écrit « Le traité de la constance, écrit au milieu des calamités publiques qui affligeaient la patrie, en proie à cette époque néfaste aux malheurs et aux ravages de la guerre civile et de la guerre étrangère, est une de ces œuvres morales dont l'utilité est toujours actuelle et qui nous apprennent à conserver l'égalité et conséquemment la vigueur de l'âme, quelles que soient les vicissitudes de la fortune, favorables ou contraires. Pour notre compte, nous avons été incités à le traduire précisément par le spectacle des catastrophes de 1870, de la guerre, du siège de Paris, et il ajoute, de la hideuse insurrection de la Commune. La dernière édition française du traité de la consolation de Guillaume du Ver, un traité qui date lui aussi de la fin du XVIe siècle, fut publié en France en 1945 avec une référence explicite en avant-propos au malheur du temps. L'édition était dédiée au fils de l'éditeur, mort pour la France, à 23 ans, à Burenwald, en 1944. Et Michaud, qui publie le texte, ajoute à la fin de la présentation de son traité, donc parlant de Duvers, « Il n'a pas cessé d'unir l'inspiration stoïcienne à l'inspiration chrétienne et de considérer la doctrine du portique comme une préparation et un acheminement à la doctrine du calvaire. » Le traité de Guillaume du Ver, qui à bien des égards n'est qu'une adaptation du traité éponyme de Lipse, a lui-même été écrit à la fin des guerres de la Ligue et évoque longuement le siège de Paris, la famine et les quelques scènes d'anthropophagie par faim qui s'étaient produites à ce moment-là. On rappellera enfin pour mémoire que Michel Foucault, lui-même séropositif, en un temps où les trithérapies n'existaient pas, incita son ami Paul Venn à rendre accessibles les œuvres de Sénèque en éditant les entretiens de Sénèque et les lettres dans la collection Bouquins en 1993 et en reprenant une vieille traduction qui n'avait même pas été revue comme s'il y avait urgence. Après le Seneca Ferre Christianus de Lactance et le Seneca Saepe Noster de Lipse, est-on passé à une récupération agnostique ou athée des stoïciens de l'époque impériale, modèle de force d'âme, de courage, de résistance au malheur face à l'exil ou la mort annoncée par le tyran pour eux, ici, dans le cas dont je suis partie, face à une maladie mortelle qu'on ne savait pas soigner. Il me semble bien que les relations entre stoïcisme et christianisme sont passées par trois étapes. La connivence chez les pères africains du IIe siècle. La tentative de récupération à des fins apologétiques dans le stoïcisme christianisé de la fin de la Renaissance et une indifférence polie en notre temps. S'il y a bien encore, enfin il y en avait quand j'étais gamine, des recueils de prières et des images pieuses qui reprenaient le texte d'Épictète sur le chant du rossignol qui prie Dieu naturellement, le stoïcisme chrétien et le christianisme stoïcisé appartiennent, je crois, à l'histoire ancienne de la culture européenne. Je voudrais donc rapidement récapituler les différentes étapes marquantes de cette histoire pour expliquer la fascination qu'a exercée l'école du Portique. On parlait à la Renaissance d'unir Athènes et Jérusalem, le portique bariolé de Zénon avec le portique de Salomon, puis le malentendu de la tentative néo-stoïcienne de rendre le stoïcisme compatible avec le christianisme, pour terminer par les points de rupture entre non pas deux philosophies ou deux religions comparables, mais bien une philosophie et une religion qui n'ont manifestement pas la même visée ni les mêmes égards. Et à cet égard, tout en restant modeste, mais filiale quand même, je voudrais faire pour le stoïcisme ce que fit jadis Stanislas Breton pour le rapport entre spinozisme et christianisme à la fin de son livre sur le traité théologico-politique de Spinoza. Dans ses dernières pages, il opposait une incompatibilité de position aux chrétiens qui chercheraient dans la philosophie de Spinoza une meilleure intelligence de sa foi, en dépit des résonances que peuvent exercer sur lui des thèmes comme l'amour intellectuel de Dieu, l'impératif de justice et de charité, la réduction de la foi à la justice, le refus des arrière-mondes, etc. Entre Spinoza et le christianisme, mais aussi entre Épictète et Jésus, se dresse le signe de contradiction qu'est la croix. La leçon de la croix aiguise notre sens critique, écrivait Breton, car le Dieu qu'elle crucifie dramatise la dérision de toutes les gloires de ce monde. Voyons ce qu'il en fut et ce qu'il en est. Donc, premier point, la connivence à l'âge patristique. Il me semble que le temps de la connivence fut l'âge patristique, le IIe siècle en Afrique. Lactance ou Clément d'Alexandrie n'étaient pas des théologiens dogmatiques, mais des pasteurs. Ils avaient le souci de donner à leurs ouailles des conseils pratiques pour la vie quotidienne. Comment s'habiller? Faut-il suivre la mode? Porter des bijoux? Où et comment se loger? Quels meubles posséder? Comment et quoi manger? Faut-il prendre des bains souvent ou rarement? Faut-il se marier? Le mariage est-il une chose bonne ou indifférente? À toutes ces questions, le Nouveau Testament n'apportait guère de réponse. Saint Paul un peu sur le travail, le mariage, l'habillement des femmes, mais pas celui des hommes. Il ne disait pas si le chrétien avait le droit de porter le pallium. Mais il ne répondait pas, et les proverbes de Salomon, autre source, pas davantage, sur la question de savoir si le chrétien pouvait porter le manteau des philosophes, boire du vin venu de provinces lointaines, une fois qu'il avait nourri les pauvres quand même, si sa femme pouvait porter des bijoux, des étoffes de soie brodées d'or, etc. Tout le monde n'était pas appelé au célibat ou à l'ascèse. Or, à toutes ces questions pratiques, les pères trouvaient des réponses très adaptables chez les stoïciens de l'âge impérial, Épictète, Marc Aurèle, et surtout un stoïcien moins connu, Musonius, que Clément pille allègrement, mais sans jamais faire référence, bien sûr. Autre avantage, dans les suppliques à l'empereur pour défendre les chrétiens contre les accusations et les persécutions dont ils étaient l'objet, du seul fait qu'ils portaient le nom de leur maître Christos. Alors même qu'on ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est platonicien, aristotélicien, épicurien, pyrrhonien, etc., Lactance et Tertullien soutiennent que, comme les membres des écoles philosophiques qui portent le nom de leur maître, les disciples du ciel sont des chercheurs de vérité, ils ont le droit de porter le nom de leur maître et ils doivent être jugés sur leurs actes et pas sur leurs croyances. Sur le plan théorique, les théologiens chrétiens du IIe siècle vont reprendre le vocabulaire stoïcien du logos avec sa double forme de logos interne, logos endiathetos, et logos externe, logos prophorikos, pour penser la nature du Christ, verbe divin, consubstantielle au Père est sortie de lui. Les premiers stoïciens comparaient la formation du discours externe à partir du discours interne à la naissance d'Athéna de la tête de Zeus. Et même l'assimilation de Zeus au feu spermatique qui est à l'origine de tout est rapprochée ensuite des manifestations ignées de Dieu dans la Bible par Clément, le buisson ardent, la colonne de feu qui guide les Hébreux dans le désert, les langues de feu de la Pentecôte. Je cite Lactance, « Le Fils de Dieu est la raison et la sagesse de son Père, aussi bien que sa parole. Cette parole divine n'a pas été tout à fait inconnue aux philosophes. Zénon, le premier des stoïciens, dit qu'elle a créé l'univers et rangé en ordre les parties qui le composent. Il l'appelle destinée, nécessité de Dieu et esprit de Jupiter. » Les chrétiens trouvaient aussi chez les stoïciens des éléments de démythologisation à appliquer aux mythes païens. Ils y trouvaient la critique des sacrifices, le primat de l'orthopraxie. Le culte le plus parfait et le service le plus excellent que Dieu puisse recevoir, c'est la louange publiée par la bouche d'un homme juste. Ils y recherchent une défense de la providence contre le nécessitarisme, un finalisme anthropocentré aisément récupérable, une conception de la loi naturelle qui rejoint l'idée paulinienne de la loi divine gravée dans nos cœurs, l'innéité de la notion de bien, une théorie des passions, et il transfère du sage au saint les paradoxes stoïciens, à savoir seul le saint et non plus le sage est libre, seul le saint est riche, beau, noble, pieux, ami véritable, etc. À ce stade, la connivence est plus forte que la démarcation. Le stoïcisme fournit aux chrétiens de l'époque hellénistique des thèses sur lesquelles on peut se mettre d'accord entre chrétiens et romains cultivés, dont l'empereur. Mais il n'offre pas de philosophie de substitution. C'est plutôt le christianisme qui se fait le concurrent de la philosophie en proposant une cosmologie, le monde est unique et il a été créé, une théologie, Dieu unique et tout-puissant, une anthropologie, l'homme est faillible, une éthique, avec en plus une espérance qui est celle du retour de Jésus et d'une vie éternelle bienheureuse, et le tout sans avoir besoin de faire de longues études. Il y a même chez Clément d'Alexandrie des textes très très drôles où il se bagarre avec un disciple d'Esculape pour savoir qui du disciple d'Esculape ou de Jésus a guéri le plus de malades. Et c'est Jésus qui gagne. Ouf. Pour autant, le christianisme ne s'est pas encore moulé dans une philosophie comme cela commencera avec Boès, 4 siècles plus tard, pour continuer avec Aristote et Thomas. Et par ailleurs, la vraie concurrente de toutes les philosophies grecques, c'est la sagesse divine qui va des prophètes à Salomon, puis à Jésus. La question n'est donc pas, comme cela sera le cas avec le néo-stoïcisme, de montrer un accord possible entre christianisme et stoïcisme, mais de trouver un terrain d'accord avec les païens cultivés romains, comme le fit Paul avec les Athéniens, point de départ d'une démarche visant à dire « La sagesse que vous cherchez dans la philosophie, moi, disciple de Christos, je viens vous la révéler. » Comme disait Lactance, la formule est quand même très claire, Sénèque aurait quitté Zénon pour Jésus si quelqu'un lui avait enseigné. Il en va autrement à la fin de la Renaissance. Les éditions savantes des textes anciens ont fleuri grâce à l'imprimerie et au travail des humanistes. Elles se sont enrichies de traductions en langue vernaculaire qui ont rendu ces textes accessibles au plus grand nombre, les nobles, les conseillers du prince, les bourgeois et même les femmes. Dans les dernières décennies du XVIe siècle se joue une concurrence entre les belles lettres, les bonae litterae, et les sacrae litterae, les lettres sacrées. Celles-ci, les lettres sacrées, ont bien la primauté, mais les humanistes se servent du modèle de la reprise des dépouilles des Égyptiens après le passage de la mer Rouge pour justifier, de leur part, le recours aux textes païens stoïciens. Ce recours au portique n'est pas complètement neutre, ni même seulement justifié par l'importance de son enseignement éthique. Il me semble, je vous en donne pas des preuves, mais je les ai dans l'histoire même de Juste Lipse, que revaloriser le stoïcisme, c'est s'opposer à l'aristotélisme dominant dans les facultés de théologie, qu'elles soient catholiques ou réformé. Le stoïcisme est repris moins par des philosophes de profession, et sûrement pas par des théologiens, mais par des latinistes, par des professeurs de littérature. C'est pourquoi Juste Lips, un des derniers grands humanistes au sens de la Renaissance, c'est-à-dire compilateur de manuscrits et éditeur de textes anciens, prend la peine de rédiger non seulement un traité de la constance, sur le modèle de Sénèque, mais encore une physique des stoïciens et un manuel de philosophie stoïcienne. Dans ces deux livres, il offre, à l'exception de l'éthique qu'il n'a pas eu le temps de composer, une présentation très complète de la physique stoïcienne, de sa cosmologie, de la théologie naturelle, de la politique et de la conception du sage. Mais l'érudition même du propos montre que les temps ont changé. Contre un stoïcisme diffus et théoriquement un peu mou, Lips veut rétablir l'ossature d'un système où tout se tient. Mais du même coup, il se sent obligé de tenir deux stratégies concurrentes. L'une de récupération, sur tous les points où le stoïcisme peut s'accorder avec le christianisme. L'autre de démarcation, voire de rupture, sur les thèses qui ne sont ni récupérables, ni admissibles. Par exemple, l'égalité des fautes, toutes les fautes sont égales, c'est aussi grave de commettre une faute de grammaire que de tuer son père, ou le droit au suicide du sage. Dès lors, le stoïcisme se voit accorder un rôle protreptique pour revitaliser un christianisme reçu par tradition et pratiqué sans grande conviction. Le stoïcisme se voit assigner, surtout chez les protestants, mais pas seulement, le rôle d'incitation à rechercher le bien véritable et souverain. Simon Goulard, un pasteur réformé de Genève, qui avait le verbe « haut » et qui n'a pas hésité à reprendre Henri IV sur ses amours adultères, écrivait à propos de Sénèque, je cite, « Car, pour se résoudre contre les divers et fâcheux événements de cette vie, pour acquiescer doucement à la providence divine, pour mépriser la mort et désirer l'immortalité bienheureuse, pour réprimer l'insolence des passions étranges qui nous emportent trop souvent au loin, et pour jouir d'un grand repos parmi tant de tempêtes et naufrages qui se présentent tous les jours, je ne sache entre les païens, historiens, philosophes, orateurs ni auteurs quelconques, que je voulusse préférer à Sénèque. Il y en a peu qui lui soient comparables, et la plupart le suivent de fort loin. » Comme le dira aussi André de Rivaudot, un protestant, là encore, traducteur d'Épictète, « Un païen nous apprend l'honnêteté qui ne se garde guère bien entre les chrétiens. » Cela étant, on peut déterminer les principaux points de convergence et les points de conflit. Vous me pardonnerez cette énumération un peu aride, mais je pense qu'elle a pour but de bien clarifier les choses. Les points de convergence sont assez nombreux en ce qui concerne la théologie naturelle et l'idée d'une loi naturelle rationnelle qui se confond avec la raison divine. On notera donc comme point d'accord la détermination d'un Dieu unique, sage, bon, en mettant de côté la question de la toute-puissance. Le primat de l'action droite sur le culte superstitieux, le vrai culte qui plaît à Dieu, c'est la vie d'un homme juste. La confiance en un Dieu provident qui se confond avec la loi du monde et qui commande les destins particuliers qui n'en sont que l'explicitation. Par conséquent, l'existence d'un ordre rationnel du monde sur lequel on peut fonder non seulement la science, mais aussi l'organisation rationnelle de la vie commune, morale et politique. Il y a une sorte de rationalisme politique. Enfin, une morale fondée sur la droiture et, dans ce cas, suivre la nature équivaut à suivre Dieu, ce qui est une formule stoïcienne. Enfin, l'accord ou l'harmonie des vertus, qui en a une les a toutes, en occultant la question de savoir quelle est la vertu cardinale, est-ce que c'est la constance, est-ce que c'est la prudomie, mais en tout cas c'est jamais la charité. Une pratique de la discipline, discipline des représentations, des désirs, discipline des conversations, qui vise à obtenir et à maintenir la tranquillité de l'âme, l'égalité d'humeur, la constance. Enfin, la valeur des exercices spirituels, parce que les stoïciens recommandent l'exercice de conscience quotidien et l'anticipation. Après les points d'accord, les points de résistance. Les points de résistance, c'est d'abord le primat des œuvres qui conduit à l'autosuffisance de l'homme, Les stoïciens disent que non seulement le sage est égal à Dieu, mais il lui est même supérieur, parce que Dieu se doit à sa perfection, à sa nature divine, tandis que le sage le doit à son travail. Quand même mieux. Et ce qui conduira à l'accusation de pélagianisme portée contre les néo-stoïciens. Résistance encore, la gestion des passions. Faut-il les éradiquer, les arracher à la racine, comme disent les stoïciens, ou les ménager, comme disent les jésuites sans doute, c'est-à-dire déplacer l'affect sur d'autres objets. L'impassibilité prétendue du sage est un mythe. Sénèque, je cite, décrivant son sage, dit qu'il ne peut être ébranlé de rien et qu'il va de pair avec Dieu. Et le pauvre petit, déchargez-lui aux oreilles un pistolet chargé de poudre seulement et vous verrez ce sage qui allait de pair avec Dieu bien ébranlé. Il ne faut qu'une tarentule qu'il pique pour mettre sa vertu hors de ses gonds et pour bouleverser toute sa philosophie. Point d'accrochement aussi, le rejet de la pitié et du pardon. Mais c'est pas un point de conflit total, parce que la pitié est refusée, mais pour la miséricorde. Et à côté du refus du pardon et du repentir, il y a quand même un appel à la clémence du prince. Enfin, une sagesse du présent qui ignore enfer et paradis, et même toute conception précise de l'immortalité des âmes. Il y a quand même des conflits. Les conflits portent sur un dieu impersonnel, chez les stoïciens, contre un dieu personnel et trine. La mise à l'écart du péché originel et des problématiques de la grâce. L'égalité des fautes, puisque si les fautes sont égales, c'est qu'elles sont toutes un écart par rapport à la droiture. La croix et la résurrection. L'égalité du sage à Dieu dans le portique, le saint chrétien est tout autre chose que le sage stoïcien, et le pécheur n'est pas seulement égaré loin de la voie droite, il est aussi celui qui défie Dieu. Le droit du sage au suicide. Ce point a été très souvent souligné, mais je ne crois pas que ce soit le plus important. Parce que chez les stoïciens, le suicide n'est permis qu'au sage, le sage est aussi rare que le phénix, donc on en voit toutes les N générations. Et les seuls exemples donnés de suicide acceptable n'en sont pas vraiment. Zénon, très âgé, 70 ans, ce qui est un âge très, 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 très vieux à cette époque, tombe, se blesse et lève le doigt et dit à Zeus, j'ai compris. Il cesse de se nourrir pour se mourir d'inanition au bout de quelques semaines. Est-ce un suicide ? Sénèque se suicide avec sa femme Pauline, c'est vrai, mais dans un bain chaud quand même, pour que ça soit plus confortable. Mais il ne fait qu'anticiper la mort qui lui a été promise par Néron. Enfin, différence qui me paraît plus forte, la figure du diable. Il y a des démons dans le portique, mais leur rôle est très très faible. Leur réhabilitation chez Lips est liée à la question des procès de sorcellerie et de la nature des sorcières dont on cherche à expliquer la puissance anormale. Mais en revanche, la présence du diable est très forte chez un néo-stoïcien moraliste qui s'appelle Urbain Chevreau. Malebranche, en revanche, qui est chrétien comme et oratorien même, dans le livre 2 de la recherche de la vérité, consacré à l'imagination, montrera de manière définitive sur le cas du lycanthrope et du pâtre qui a rêvé du sabbat, puis qui a raconté ça à sa femme, puis qui finit par croire aux histoires qu'il a racontées, que la qualification de sorcière est le fruit d'une double dérive de l'imagination, celle de la femme qui se croit à tort ensorcelée et celle de ses accusateurs. Si le stoïcisme est très vivant à la fin de la Renaissance, le nombre d'éditions est étonnant, et s'il connaît même une forme de restauration en régime chrétien, il disparaît presque aussi vite qu'il est apparu, en un siècle, pour donner lieu à une présence diffuse dans la morale et la spiritualité, ce dont on reparlera tout à l'heure. Si la fascination pour les textes anciens redécouverts et l'anti-aristotélisme lié au rejet de la scolastique peuvent expliquer cette renaissance, qu'est-ce qui explique son obsolescence ? Trois choses à mon sens. D'abord, la naissance de la nouvelle physique, mécaniste, mathématique, avec Galilée, Descartes, Leibniz, pour ne citer que les plus grands. La nature est écrite en langage mathématique. Nouvelle physique qui rend complètement périmée la physique qualitative des éléments, chère aux stoïciens, dont on ne trouvera désormais de traces que dans l'alchimie. Comme l'avait bien vu Lipps, le stoïcisme est un système où tout se tient, physique, théologie, logique, anthropologie, morale, politique. Quand l'un disparaît, la physique, c'est tout l'ensemble qui se trouve fragilisé. Deuxième raison, le renouveau de la métaphysique avec Descartes. Certes, on retrouvera une thèse qui rappelle le corporalisme stoïcien chez Hobbes, tout ce qui existe est corps, mais dans un contexte épistémologique, mécaniste, complètement différent. Enfin, troisième point, l'éthique stoïcienne se dissout parce qu'elle a trop bien réussi. Dans ce qu'elle a de plus radical, de plus exigeant, elle ne correspond plus à des temps moins difficiles que ceux où elle a été réhabilitée. L'impassibilité du sage dans la tornade apparaît désormais impossible concrètement et pas vraiment désirable. Dans ce qu'elle a de plus commun, la classification des passions ou des vertus, les conseils pratiques, cette éthique ne se distingue plus de l'éthique commune. Quant à l'apologétique qui prévaut chez François de Sales ou la Devotio Moderna, elle s'adresse au cœur plus qu'à la raison, elle fait l'appel à l'imitatio dei id est Christi et non pas à sequi naturam. Et maintenant, si l'on s'interroge désormais sur ce que le stoïcisme a encore à dire à notre culture et au christianisme aujourd'hui, on ne peut que rester perplexe. D'une part, le stoïcisme apparaît irrémédiablement comme une philosophie du passé qui ne correspond plus guère aux questions du présent. Mais d'autre part, vous l'avez dit tout à l'heure, les éditions de poche d'Épictète et de Marc Aurèle se multiplient, se vendent comme des petits pains et constituent, j'en ai été plusieurs fois témoin, des cadeaux de départ à la retraite ou qu'on donne à des cadres dans des réunions de DRH, lisez ça, ça vous fera pas de mal, ou font l'objet d'exposés de philosophes médiatiques, mon ancien collègue Luc, devant des séminaires d'entreprise. Mais ce dont on fait ainsi la promotion, c'est un stoïcisme abâtardi, vidé de sa substantifique moelle. Quel est le sens de l'apologie de la force d'âme, de la constance, de la résistance face à l'adversité, si l'on ignore la conception physique de la tonicité de l'âme forte, ou si l'on ne tient aucun compte de la théorie morale qui sépare le bien des indifférents, et si l'on refait des indifférents préférables, la santé, la richesse, la beauté, la bonne réputation, des biens, en un sens plus proche d'Aristote que du portique. Si j'essaye, pour ma part, de réfléchir à ce qui fait que j'ai passé tant de temps de ma vie académique, à travail et même encore après, à travailler sur des textes néo-stoïciens. Qu'est-ce qui fait que je continue de me nourrir de la lecture des stoïciens anciens? Je considère que pour moi, le stoïcisme n'est pas tant une philosophie qui me permet d'interpréter mon temps, comme je fais avec Spinoza, Leibniz ou Hegel, qu'une sagesse qui me permet peut-être de mieux me comprendre moi-même, en tout cas de rester droite en toutes les occurrences de la vie. Enfin, d'essayer de rester droite. Mon intérêt pour le stoïcisme, qui remonte à mes années d'études à Fontenay sous la direction de Jean-Paul Dumont, n'obéit pas seulement, mais aussi, à ce que j'appelle la vocation monastique, qui est propre à l'enseignant, et qui consiste à transmettre les grandes œuvres du passé pour permettre aux générations futures de jouir de ce dont nous-mêmes avons profité. Il faut bien, comme disait Simon Goulard, trouver son miel dans la lecture de ses auteurs, assez médiocres quand même, pour leur consacrer tant d'années sans que l'intérêt défaille. Et ce miel, je le trouve dans l'apologie de la force d'âme et de la volonté, dans la constance de la résolution qui poursuit inlassablement ce qu'elle connaît être son bien, dans la confiance faite aux forces de la raison, dans la constitution d'une sagesse laïque, centrée sur le présent, qui regarde vers le futur comme son présent anticipé, qui ne se soucie plus du passé, dans le contentement que produit la conscience d'avoir fait le mieux possible ce qui dépendait de moi, d'avoir poursuivi ses buts, laboré et constantia, c'était la devise de l'éditeur Plantin, par le travail et la constance. C'est vrai que c'est un idéal modeste, mais au moins il est possible, et il facilite la mise en pratique d'une philosophie de la liberté et de la générosité. Et cela vaut assurément pour quelqu'un comme moi, qui se considère désormais davantage comme une disciple du Nazaréen que comme une chrétienne de quelque confession que ce soit. Mais ça ne fait pas pour autant du stoïcisme une philosophie christianisable, ni même une philosophie substitut d'une religion. Il faut être clair sur ces divergences irréductibles. Le stoïcisme est un corporalisme intégral. Le christianisme est une religion de l'incarnation et de la résurrection des corps. C'est tout à fait différent. Et le corps n'y a pas le même statut. Je considère pour ma part, vous ne serez peut-être pas d'accord, qu'il n'y a pas de morale chrétienne, mais qu'il y a une reconfiguration chrétienne de la morale commune qui fait de la charité la vertu principielle et cardinale. Une charité dont le caractère décisif n'est pas la mesure, mais l'excès. Non pas le caractère raisonnable, mais bien déraisonnable de l'amour fou. Ce concept est totalement étranger aux stoïciens. Il y a bien une politique stoïcienne qui correspond à l'apogée de l'Empire romain et qui développe une forme romaine de cosmopolitisme. Mais il n'y a pas de politique chrétienne, puisque le royaume du Christ n'est pas de ce monde et qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Entre le christianisme et le stoïcisme se dresse comme un signe de contradiction, le signe de la croix et sa prémisse, la kénose divine. Le stoïcisme est une pensée du présent. Le christianisme, comme le judaïsme, est orienté vers l'avenir, l'avènement du Messie, pour le judaïsme, la parousie et l'espérance de la vision béatifique pour le christianisme. Le portique, enfin, récuse l'immortalité pérenne des âmes et toute immortalité personnelle. Les seules âmes qui subsistent quelque temps, les âmes des sages, finissent par se dissoudre dans l'air et les âmes des femmes se transforment en nuages puis en pluie. Le christianisme annonce une résurrection de la personne tout entière, corps et âme. Finalement, de toutes les critiques philosophiques chrétiennes du stoïcisme à l'âge classique, la plus pertinente me paraît être celle de Leibniz, une patience sans espérance. On peut bien taxer le portique de formes modernes de pélagianisme, comme Pascal le fit, mais Pascal est un chrétien rigoriste qui ne servira guère de guide de vie. On peut bien dénoncer dans le stoïcisme une sagesse de visionnaire, comme avait fait Malebranche, et dans l'impassibilité stoïque, une chimère, ainsi faire du stoïcien un fou qui s'ignore, un paranoïaque qui se prend pour Dieu, comme Dunn se prenait pour Louis XIV. Mais reste que les chrétiens anciens et Paul le Ier se sont revendiqués comme des fous de Dieu, et que la sagesse de la croix est folie pour les Grecs. En revanche, Leibniz a vu plus juste quand il a loué les stoïciens d'avoir clarifié le concept de providence et de destin, d'avoir redonné vigueur aux notions communes, tout en leur reprochant de prôner une sagesse qui ne conduit pas à la béatitude, mais à une patience par force, dénuée d'espérance. Entre stoïcisme et christianisme, la connivence ou la convergence affirmée par les néo-stoïciens est sans doute un vœu pieux ou une illusion. Le christianisme propose sans aucun doute autre chose et avec d'autres moyens que la philosophie des stoïques, mais il présuppose une foi qui n'est pas le produit de la réflexion ou de la volonté, mais un don de la grâce. Le stoïcisme, comme le spinozisme, qui est mon autre violon d'ingres, ne présuppose rien d'autre que la confiance dans les forces vives de la raison commune. Si l'on accepte de séparer philosophie et religion, et si l'on admet qu'il n'y a pas de philosophie chrétienne, alors sans doute on peut être à la fois stoïcien et chrétien, mais avec le sens des démarcations. La morale stoïcienne ne va pas jusqu'au bout, et je dirais même jusqu'au début, des exigences de la charité. Et la sagesse n'est pas la sainteté. La philosophie arrête son discours à ce qui est justifiable par des arguments rationnels. La foi va au-delà de la raison, même si elle use de la raison pour savoir quand elle est autorisée à l'excéder. J'ai commencé à réfléchir sur ce sujet en compagnie de Stanislas Breton. Notre vieille et fidèle amitié fait que j'espère qu'il se réjouit sub specie aeternitatis de m'entendre reprendre pour l'appliquer au portique la phrase finale de son livre sur Spinoza. Au terme de cet exposé, il n'est pas nécessaire de savoir qui a raison ou de convoquer un tiers pour compter les points. Le stoïcisme existe, il serait vain de le nier, l'essentiel est que le souffle passe et que notre joie demeure. Je vous remercie.
Un très grand merci pour votre exposé suggestif et je donne tout de suite la parole à Patrick.
Merci à la faculté de philosophie d'avoir invité un théologien et de m'avoir donné cette joie de dialoguer avec Jacqueline Lagré, dont je viens de suivre tout récemment au Centre Sèvres un enseignement précisément sur ce néo-stoïcisme qui m'a, je veux dire, comme vous l'avez pu entendre, régalé par sa clarté et la capacité à faire sortir les enjeux de cette histoire du stoïcisme et du stoïcisme chrétien. Alors j'aurais pu ce soir choisir de vous donner à entendre un certain nombre de textes spirituels qui auraient fait entendre la parenté et j'allais dire la fécondité du stoïcisme pour le christianisme. Plutôt que de faire cela, j'ai plutôt choisi de m'interroger au fond, à la suite de ce que Jacqueline Lagré vient de nous dire, mais sans emprunter un chemin historique cette fois-ci, mais de m'interroger sur les raisons de la connivence, on en a déjà entendu certaines, entre stoïcisme et christianisme, et surtout de déplacer mon interrogation sur la manière dont s'est exercée à l'intérieur du christianisme la régulation de ce malentendu. Car il y aurait un malentendu dans lequel nous pourrions tomber, qui serait de croire que les chrétiens eux-mêmes, néo-stoïciens, ou qu'un certain nombre de chrétiens face à la revitalisation du stoïcisme à l'époque de la Renaissance et à l'époque moderne, n'auraient pas vu le malentendu. Donc ce malentendu a été vu, alors j'essaierai d'en repérer un des principes, en tout cas en d'en proposer une interprétation. Alors je ne reprendrai pas un exposé historique, mais au fond je voudrais souligner d'abord à partir d'une scène fondatrice en quelque sorte, racontée dans les Actes des Apôtres, ce qui m'apparaît comme une première raison de la connivence et de cet exercice interne au christianisme, donc de la régulation de ce malentendu. Et puis je poursuivrai ensuite en m'arrêtant sur l'intérêt des chrétiens pour la dimension existentielle du stoïcisme, comme cela vient de nous être rappelé, intérêt qui est aussi le lieu même de la différence entre christianisme et stoïcisme, si l'on est d'accord pour dire que vivre en chrétien, c'est vivre de la résurrection, perspective qui ne peut être qu'absente du stoïcisme. Et au fond, je voudrais montrer que cette connivence et vigilance s'exerce de manière la plus forte, à la fois dans la connivence et dans la vigilance, dans la littérature spirituelle de l'âge moderne. Premier point, donc, si vous voulez bien, retournons dans les Actes des Apôtres, et peut-être même un peu en deçà pour commencer. Puisque, avant même Jésus-Christ, le stoïcisme était connu des milieux hellénistiques, juifs, et on en sent des traces particulièrement nettes, par exemple dans le livre de la Sagesse, tout autant que dans certaines manières de traduire la langue biblique dans la Septante. Surtout, le stoïcisme a connu, et au travers de grandes œuvres et des débats publics de l'époque impériale, ce stoïcisme a offert au christianisme et au christianisme naissant, puis tout au long de sa période, de son histoire, pardon, ce qu'on pourrait appeler une sorte de milieu ambiant, dans lequel les lettrés chrétiens, que ce soit des pasteurs, des prédicateurs, puis les théologiens, apprenaient, à travers la philosophie stoïcienne, à déchiffrer l'énigme de l'homme, tout en sentant qu'ils devaient eux-mêmes s'en démarquer, au nom précisément de ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ impliquaient pour la compréhension du monde et de l'existence. Alors, en effet, le stoïcisme, on vient de l'entendre, avait offert et offrait une vision organique telle, donc il y avait une consistance telle du stoïcisme, que les premiers chrétiens, les premiers qui eurent à penser la foi chrétienne dans le monde gréco-romain, ont trouvé dans cette philosophie, bien plus que des adversaires, mais un véritable système dans lequel les chrétiens allaient pouvoir, j'allais dire, écrire le leur. Et il a été très vite clair aux yeux des prédicateurs que pour une bonne défense de la foi chrétienne, il fallait montrer, bien entendu, les continuités plutôt que les ruptures, en empruntant des formules en particulier, mais emprunter ces continuités pour faire valoir que l'inouï de ce Dieu mort en croix pouvait trouver finalement des correspondances dans la plus sérieuse des philosophies humaines. Alors on se souvient de saint Paul lui-même, comme le racontent les Actes des Apôtres, qui se rend sur l'agora d'Athènes, où, comme Luc l'écrit, même des philosophes épicuriens et stoïciens s'entretenaient avec lui. Et au fond, Paul, pour surmonter l'étrangeté de l'annonce de la résurrection dans ce monde gréco-romain, Paul emprunte au stoïcisme un certain nombre d'expressions et de conceptions de Dieu, au fond. Le Dieu qui a créé l'univers, je cite les Actes des Apôtres cette fois, et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. Et là, on pourrait vraiment retrouver des formules équivalentes dans les stoïcismes. Paul en avait hérité, j'allais dire, par sa double culture, à la fois sa filiation culturelle hellénique, tout autant que par son judaïsme, qui était déjà baigné lui-même, ce judaïsme de philosophie stoïcienne. D'une certaine manière, on peut dire qu'Israël avait, depuis quelques siècles, respiré l'air commun de son temps, qui était profondément marqué par ce stoïcisme. On le voit alors très nettement chez Paul, dans les exhortations morales, vous prenez les grandes lettres de saint Paul, tout autant que dans les lettres pastorales, Tite ou Timothée, qui reprennent un certain nombre de ces exhortations que l'on trouverait chez les philosophes stoïciens, en particulier ces listes aussi de vices, de vertus, et cela sera constamment repris dans l'histoire chrétienne. On pourrait dire donc, d'une certaine manière, que cette proximité thématique, mais établie par les chrétiens, et uniquement par les chrétiens, servit à construire des ponts apologétiques. On espérait en effet ainsi que la légitimité rationnelle de haute volée du stoïcisme serve de caution à la fois improbable d'un christianisme trop conscient que la mort et la résurrection du Christ exigeaient un pas que la raison seule ne pouvait accomplir. Et la folie de la croix, comme on le rappelait, met au défi cette raison des croyants. Alors on sait cependant le bilan modeste et assez mitigé d'une certaine manière que saint Luc, dans les Actes des Apôtres, dresse de cette connivence en laquelle Paul semblait placer ses espoirs de prédicateur à Athènes, puisque le narrateur poursuit « au mot de résurrection », donc Paul vient de faire appel à ce Dieu en des termes quasi stoïciens, puis il annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et le narrateur commente « au mot de résurrection, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Certains, pourtant, s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. » Alors, le nom de Denis qui arrive ici fera couler beaucoup d'encre, mais peu importe. Paul avait-il, on pourrait se poser cette question, Paul avait-il indûment annexé la pensée stoïcienne? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir que Luc montre bien que le pont apologétique, comme je l'appelle, ne fonctionne pas totalement. Alors, si on poursuit la lecture des Actes des Apôtres, c'est intéressant de voir que précisément, j'allais dire, le stoïcisme ne recouvre pas, dans l'usage apologétique qu'en fait Paul, la totalité du christianisme, et qu'au fond, un irréductible demeure, y compris dans l'usage que Paul fait de ce stoïcisme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est révélé, ce hiatus, au fond, entre les deux, par le proconsul d'Achaïe, donc le nord de Corinthe, Gallion, qui, donc vous savez que donc Paul est conduit en procès devant Gallion. Il est conduit par les Juifs devant Gallion en procès. Et Gallion, le proconsul, répond « Je ne veux pas, moi, être juge, puisque vos querelles concernent une doctrine, des noms et la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. » Donc, autrement dit, le pont qui voulait être construit pour masquer l'étrangeté, et j'allais dire le caractère étranger même de la doctrine, ne fonctionne pas. Gallion le désigne et le narrateur Luc, j'allais dire, le reconnaît. Alors, c'est d'autant plus savoureux que Gallion est le frère de Sénèque. Donc, alors je ne dirais pas jusqu'à dire que le Gallion était lecteur de son frère, mais en tout cas, on peut le dire. Voilà. Donc, ce passage qui pourrait paraître complètement anodin, j'allais dire, montre bien la conscience interne au christianisme, à la fois, j'allais dire, de la proximité forcée ou de la proximité délibérément choisie et accentuée, et en même temps, d'une irréductible différence perçue de part et d'autre. Alors, cette proximité entre christianisme et stoïcisme, elle tient évidemment au milieu culturel et intellectuel ambiant, mais cette proximité, hein, comme je dis, elle a été délibérément renforcée par les premiers chrétiens pour des raisons apologétiques. Mais cette raison apologétique ne masque pas, n'entend pas recouvrir l'affirmation centrale de la foi, hein, kérigmatique, à savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette affirmation de la foi qui, dans les Actes des Apôtres et chez Paul, évidemment, montre, j'allais dire, l'impossible confusion entre stoïcisme et christianisme, hein, comme nous le rappelait à l'instant Jacqueline Lagré, en raison même du signe de contradiction de la croix et de la foi en la résurrection. Alors, je voudrais partir de ce point-là, au fond, pour poursuivre, donc sans faire comme s'il n'y avait pas cette différence irréductible hein, qui vient de la résurrection, de la foi en la résurrection, mais de le prendre non pas, j'allais dire, de manière dogmatique, en essayant de comprendre ce qu'est la résurrection et comment elle se distinguerait d'une conception de la conception métaphysique du stoïcisme, mais en partant du point de vue chrétien pratique, c'est-à-dire de des conséquences pratiques existentielles de la résurrection que Paul et les auteurs spirituels ne vont cesser de développer. Alors c'est un peu le deuxième point que je voudrais aborder maintenant. Alors, je vais conserver encore un peu saint Paul pour le début, au fond, c'est un bon guide. Alors, ce qui est frappant et notable chez saint Paul, c'est que la foi ne consiste pas seulement à un énoncé hein, qui proclame la mort et la résurrection du Christ, mais cette foi entraîne, par le don même de la grâce qui est offerte dans la mort et la résurrection, la foi entraîne donc un renouvellement de l'existence tout entière et dès ici-bas. Et si on voulait comprendre le terme de grâce, vous voyez, en restant, ça fait frémir, surtout quand on travaille sur l'histoire théologique du XVIIe siècle, je vais vous expliquer ce qu'est la grâce. Donc comment le comprendre et comment le dire autrement? Si ce n'est qu'au fond, dans le christianisme, la grâce serait comme le don et l'appel à accueillir aujourd'hui ce qui vient vers nous comme notre propre avenir, c'est-à-dire notre liberté. Alors, le lecteur des épîtres de saint Paul pourra facilement reconnaître hein, cette articulation entre l'annonce de la foi et l'exigence morale, qui est une conséquence interne de la foi au ressuscité que saint Paul développe dans ses exhortations. Alors, écoutons saint Paul, hein, qui, dans son langage souvent très direct, dans Galates, par exemple, « C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. » J'allais dire, au fond, la question du christianisme pourrait se formuler ainsi. Nous avons été sauvés, très bien, mais comment vivre de ce salut? Il ne s'agit pas seulement d'y croire, mais de vivre de ce salut. La vérité du christianisme tient en fait, davantage dans la sainteté de ceux qui proclament cette doctrine. Et c'est une affirmation dont Paul conçoit la démesure, en rappelant lui-même que cette vérité, nous la portons dans des vases d'argile. Donc, La vérité du christianisme, c'est la sainteté de ce qu'il énonce, mais que c'est cela même qui est fragile. La vérité du christianisme, dira encore saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, se dit dans la chair de ceux qui en vivent. Hein, vous êtes vous-même la lettre que j'écris. Alors, on le verrait aussi dans la lettre aux Romains, qui va consacrer une expression au chapitre 12 de culte spirituel pour désigner la transformation de l'existence quotidienne jusqu'à éclairer, suggérer des manières de se comporter avec sa femme, son esclave, les autorités, la nourriture, la boisson. Alors, je parle de saint Paul, mais on pourrait regarder également l'évangile de Matthieu qui s'affronte au fond à la même question. Comment vivre de la grâce reçue de Dieu? Comment vivre dans ce temps du royaume inauguré par la prédication de Jésus-Christ et dont la résurrection scelle, hein, d'une certaine manière, un impossible retour en arrière? Et c'est, je crois, tout l'enjeu de la parabole du jugement, le fameux jugement dernier dans l'évangile de Matthieu, avec cette question: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Alors, Matthieu fait entendre que cette vérité du christianisme s'énonce dans des actes, hein, alors même que Jésus-Christ demeure incognito. Et ce que le Christ reconnaît pour ses disciples, eux ne l'avaient pas même aperçu. Autrement dit, partager la vie de celui qui est revenu de la mort appelle à une manière de vivre renouvelée. Et les exhortations morales des prédicateurs chrétiens vont se couler dans le moule de la morale stoïcienne, mais en gardant ou en tentant de garder cette initiative de la résurrection dans la vie chrétienne. Alors, précisément, ces prédicateurs ont trouvé dans les exigences et la cohérence de la morale stoïcienne une affinité, ainsi que des conseils pratiques adaptés que, précisément, très vite, dont on a perçu que les évangiles ni aucun autre écrit du Nouveau Testament ne suffisaient à donner, j'allais dire, des consignes ou des conseils, précisément, pratiques. Et du coup, le stoïcisme est devenu, comme on l'a dit tout à l'heure, mais j'y reviens pour bien percevoir ce lien avec la résurrection, le stoïcisme allait devenir un allié inestimable du christianisme en raison de son caractère pratique. En raison de son caractère pratique, parce que le caractère pratique est impliqué par la résurrection. Vivre de la résurrection, c'est vivre de manière renouvelée. Très bien, mais alors c'est quoi vivre de manière renouvelée? Comment je me comporte quand je suis renouvelé par l'esprit, par la résurrection? Alors, la littérature stoïcienne allait véritablement, franchir le vide que les écrits du Nouveau Testament ne permettaient pas de franchir. Comment vivre du Nouveau Testament quand vous êtes un citoyen converti au christianisme, un citoyen romain converti au christianisme, et que le temps dans lequel vous vivez ne ressemble déjà plus à la Palestine? A fortiori, quand vous vivez à la Renaissance ou à la cour de Louis XIII. Et cela, en disant cela, je pense à la préface du traité de Grégoire de Nice, La vie de Moïse, où il dit: mais que me sert que l'on me raconte la vie d'Abraham, puisque me ressemblant si peu, je ne pourrai jamais l'imiter. Donc voilà, c'est bien ce pas à franchir que le stoïcisme va permettre au christianisme de franchir. Et j'y reviendrai dans un instant en entrant dans la lecture de quelques textes spirituels, en particulier sous Louis XIII, ou encore fin d'Henri IV et Louis XIII avec un François de Sales, mais aussi les prédicateurs jésuites et tant d'autres, ils vont, comme si on mettait la main chrétienne dans un gant stoïcien, ils vont épouser ce langage stoïcien pour dessiner le portrait du chrétien dans la vie de cour, dans la vie sociale, avec ce fameux, par exemple, courtisan dévot. Alors, on assiste à ce qu'on pourrait appeler, hein, si on voulait le nommer, une espèce d'hybridation du christianisme et du stoïcisme, alors dont on trouve des exemples fameux dans la littérature. Alors, on peut penser à Corneille, même si, évidemment, c'est souvent du stoïcisme déjà très dilué et du christianisme très problématique. Mais, ma foi, ça fait figure, hein, et on pourra y revenir tout à l'heure. En tout cas, il était évident pour les prédicateurs que ce soit du temps de Paul, je l'ai montré, et comme on va le voir maintenant à l'époque moderne, il était évident que cette proximité ne venait jamais recouvrir la singularité chrétienne qui était au fond de vivre de la grâce, voilà ce qu'on dira à l'époque moderne, ou de vivre de la résurrection, comme le disait saint Paul. Et c'est au fond sur ce point-là que je voudrais maintenant m'attarder au fond en montrant ce qu'on pourrait appeler le principe de régulation spirituelle de la connivence entre le christianisme et le stoïcisme. Et c'est mon troisième point. Alors, je voudrais d'abord évacuer un malentendu en parlant de principe spirituel que je semblerais faire jouer comme ça simplement du côté du christianisme. Donc du coup, je parlerai, même si c'est pas très beau, de principe pneumatologique pour le distinguer du mot spirituel, parce qu'il est évident que le stoïcisme est un trésor de vie spirituelle au sens de vie de l'esprit. Hein, il serait vraiment stupide de ma part de récuser au stoïcisme et le titre de sagesse et encore plus cet adjectif spirituel. Et si vous connaissez les travaux de Pierre Hadot, en particulier sur le stoïcisme, il est évident que il a réussi à en montrer la saveur et la force existentielle et spirituelle. D'autant plus que le stoïcisme a doté sans aucun doute l'Occident d'une véritable culture de l'intériorité. Il a donné en particulier à l'homme politique, comme à tout homme public, ce qu'on pourrait appeler, dans cette capacité de retrait en soi que le sage doit cultiver, comme une ombre intérieure sans laquelle la lumière de la scène publique ne brillerait pas au fond. Marc Aurèle, qui nous est resté familier, l'est pour nous, quoi. Si nous connaissons Marc Aurèle, c'est plus par l'apport qu'il a fait à l'Occident de ses pensées que par le souvenir que nous gardons de ses batailles dans les plaines du Danube. La morale stoïcienne a vraiment, j'allais dire, creusé ce lieu du retrait dans lequel aussi le christianisme, j'allais dire, va se laisser engendrer, va se laisser découvrir la force du travail de la grâce et de l'esprit. Alors, à la question comment mener sa vie, comment répondre? Alors le stoïcien, alors m'excuserez, je vais être caricatural, c'est-à-dire je vais parler du stoïcien alors qu'on vient d'entendre qu'effectivement, selon les âges, et puis il y a une pluralité de doctrines stoïciennes, mais je caricature, voilà. Le stoïcien répond au fond que pour ce qui dépend de lui, donc sans parler de ce qui ne dépend pas de lui, il convient de revenir intérieurement à un accord originel avec la nature. Et c'est selon la nature, ce qui pouvait également se dire selon Dieu, qu'il convient d'agir. Par la raison, l'homme sage stoïcien peut déterminer ce que Pierre Hadot traduit des conduites appropriées, et ce que les stoïciens appelaient des devoirs. On peut penser au très beau traité de Cicéron, hein, De Officiis, mais c'est vrai que devoir sonne peut-être un peu autrement pour nous, mais donc par la raison, le sage détermine des conduites appropriées pour ses actions qui dépendent seulement de lui. Et le stoïcien donc exerce sa raison sur ce qu'il vit, il examine son existence. Et c'est ainsi que la pratique de l'examen, vous savez, se répand largement dans l'Occident. Mais que fait l'examen du sage stoïcien? C'est sa raison qui scrute ce qui se présente à lui, aussi bien dans les événements que dans les passions. Et il s'agit de maîtriser cette intériorité, de maîtriser ce discours intérieur que suscitent les événements, les passions, en particulier de maîtriser ces passions qui naissent, qui pour les stoïciens sont des erreurs de jugement. Et on pourrait dire que l'examen met à nu l'intériorité. Ou, pour le dire encore autrement, la raison se dépouille volontairement pour, en quelque sorte, atteindre la réalité telle qu'elle est et non telle qu'elle m'affecte. Alors Marc Aurèle, par exemple, invite ainsi à considérer ce qui nous arrive. Je vous en lis un court extrait. Voir ce qui nous arrive tel qu'il est en son essence, dans sa nudité, et se dire à soi-même le nom qui lui est propre. Voilà l'examen. Nommer ce qui m'arrive en le voyant dans sa nudité, nudité qui s'obtient simplement, j'allais dire simplement, par l'exercice de la raison. Alors, pour donner un exemple concret, Marc Aurèle l'applique aux vêtements de l'empereur et il dit « Cette pourpre impériale, c'est du poil de brebis mouillé du sang d'un coquillage. » L'exercice, mais là, c'est très important parce que l'exercice spirituel, ici, on voit bien combien il est hanté, ancré, hein, sur la théorie physique. Et du coup, et la métaphysique stoïcienne. La raison immanente du cosmos peut se déchiffrer à condition d'éradiquer les passions qui nous illusionnent, comme si les passions étaient un voile dont il fallait se débarrasser pour accéder à la chose telle qu'elle est et non pas telle qu'elle nous affecte, en suscitant ces passions, les perturbationes, comme écrit Cicéron. C'est par le retrait en soi-même que l'examen opère, que le sage se fait maître de soi, que dès lors il peut connaître le monde et qu'il peut y agir. Alors, même si c'est du stoïcisme frelaté, hein, on peut songer ici évidemment à ce vers merveilleux de Cinna dans la bouche d'Auguste. « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être. » Autrement dit, l'examen intérieur fonde la possibilité d'une action extérieure, c'est-à-dire d'une politique, en raison de cet écart intérieur qui n'est pas une sortie, qui n'est pas une fuite du monde, pour se prémunir du trouble, peut-être à l'instar des épicuriens. Sénèque écrivait dans le traité de la Clémence, une très belle phrase, « Aucune école n'a plus de bonté et de douceur, aucune n'a plus d'amour pour les hommes, plus d'attention au bien commun. La fin qu'elle nous assigne, c'est d'être utile, d'aider les autres et d'avoir le souci non pas seulement de soi-même, mais de tous en général et de chacun en particulier. » Saint Paul aurait pu le signer. Malentendu. On ne peut véritablement qu'être saisi, et il suffit de relire du Sénèque ou du Cicéron, d'être à chaque fois saisi par la grandeur des attitudes que dessine le stoïcisme, et d'en reconnaître évidemment les parentés avec le christianisme. Toutefois, bien des auteurs chrétiens, alors là aussi, quand je dis chrétien, il faudrait mettre des tonnes de nuances, parce que voilà. Le christianisme entre les pères du désert et, on va dire, François de Sales, pour s'arrêter à cela, ne chance de changer, de connaître des courants. Ben, je caricature aussi de ce côté-là et j'apporterai quelques nuances. Donc ces auteurs chrétiens n'ont jamais manqué d'engager le débat avec le stoïcisme, et en particulier sur un point qui peut-être peut nous étonner, si on en reste à une impression de surface, une pression de surface qui, malgré tout, est tenace et consistante. C'est-à-dire que si on a comme idée du christianisme qu'un certain rigorisme chrétien. Parce qu'au fond, ce qui différencie les chrétiens des stoïciens, c'est véritablement l'usage des passions. On en parlait tout à l'heure avec Jacqueline. Loin de pousser à leur élimination, même si on trouverait de nombreux chrétiens qui veulent les éliminer, le christianisme, et depuis saint Augustin jusqu'à l'époque moderne, en recommandait leur réorientation. Alors j'en donnerai pour preuve une citation d'un jésuite du XVIIe siècle, que je vous cite. « Il faut examiner sans cesse les quatre passions du cœur humain, et voir où elles tendent et ce qu'elles recherchent, et faire une continuelle étude, et s'efforcer continuellement, de les transférer en Dieu. Car vivre, cette définition me fait, je la graverai en lettres d'or à l'entrée du Centre Sèvres, car vivre consiste en l'emploi des quatre principales passions et affections qui sont le désir, l'amour, l'espérance et la crainte. » C'est Jean-Joseph Surin, qui est peu suspect par ailleurs de fantaisie ou de morale laxiste. En fond, on trouvait déjà cet argument chez saint Augustin, et puis, on va le trouver chez un François de Sales, précisément parce que François de Sales réagit vigoureusement contre la vitae nouvelle du stoïcisme à la fin de la Renaissance. Et non, alors c'est très beau chez François de Sales, parce qu'à la fois il réagit très vigoureusement au point même où il y a différence, alors même que lorsqu'il fait l'exposé des vertus et, du christianisme, il en reprend vraiment, il reprend le langage et la systématicité vraiment sur l'organicité des vertus. On retrouverait vraiment complètement un langage stoïcien. Mais voilà, faut lire tout François de Sales dans le traité de l'amour de Dieu pour voir qu'à un moment donné, il y a une pierre d'achoppement et je vais essayer d'y venir. Puisque c'est là, hein, dans cette autre vision de l'homme et de son rapport à Dieu, tel que l'exprime François de Sales, mais beaucoup d'autres, hein, que va s'exprimer ce principe théologique, pneumatologique, si l'on veut, de la régulation du malentendu entre christianisme et stoïcisme, et précisément sur la question de l'usage des passions. Alors, essayons de résumer. Le stoïcien considère qu'il faut éradiquer les passions parce qu'elles sont des erreurs du jugement. Pour François de Sales, la perspective est tout autre. Bien sûr, il existe des passions qu'il vaut mieux supprimer, car on ne peut tirer d'elles aucun profit. Mais, j'allais dire, c'est pas le problème, au fond, pour François de Sales. Le problème, ou l'enjeu, est de revenir, on pourrait dire, au principe, au mobile. Et je prends exprès à dessein ce mot de mobile de notre action, c'est-à-dire à ce qui nous met en mouvement, à ce qui nous fait agir et vivre en homme. Ce principe, ce mobile, dira François de Sales, c'est l'amour. Alors que pour les stoïciens, la volonté, le mobile, est la raison, pour François de Sales, c'est l'amour. Et par amour, c'est par amour que nous nous déterminons plutôt à ceci qu'à cela. Alors je vous cite une phrase de François de Sales. « Toutes nos affections, ce qui est une manière de traduire le mot passion, toutes nos affections suivent notre amour. » L'amour est premier, les affections suivent. « Et selon celui-ci, nous désirons, nous nous délectons, nous espérons et désespérons, nous craignons, nous nous encourageons, nous haïssons, nous fuyons, nous nous attristons, nous entrons en colère, nous triomphons. » Le mot-clé, évidemment, c'est « selon celui-ci ». Toute la liste de ses affections, toute la liste de ses passions dépend du type d'amour qui nous mobilise, qui nous met en mouvement. Et François de Sales va comparer l'âme à une horloge, hein, une horloge à balancier dont l'amour serait le contrepoids qui donne le mouvement à toutes les pièces mobiles. Hein, c'est dans le traité de l'amour de Dieu au livre 11. Et ainsi, on peut être porté vers les richesses, l'honneur, l'ambition, mais aussi la générosité, la libéralité, la justice. Et il importe dès lors à l'homme de déterminer ce qui oriente fondamentalement son amour. Et cela dans une conception vraiment très dynamique de la vie intérieure. Autrement dit, l'homme, et bien au-delà de François de Sales, pour ses auteurs chrétiens spirituels de l'époque moderne, l'homme est assuré de bien mener sa vie dans la mesure où l'amour qui le conduit à agir, hein, ce qui le porte vers autrui, vers un bien, n'est pas l'amour de soi, c'est-à-dire la volonté de jouir pour soi seul et en soi seulement. Et le contraire de l'amour de soi, c'est l'amour de Dieu. Hein, comme s'il y avait deux pôles. Alors cela ne signifie pas qu'aucune chose, qu'aucune personne ne peut être aimée en elle-même, mais qu'elles sont aimées dans un mouvement qui ne recherche pas pour soi la possession ou la délectation, en quoi consiste la concupiscence. Alors au fond, s'il fallait comprendre cela aujourd'hui, on pourrait dire que cet amour de Dieu, dans cette expression amour de Dieu, Dieu est le nom propre, le nom propre et absolu, absolument singulier, de ce qui ne peut entrer en série avec aucun bien, ni aucune personne. Dieu dans sa transcendance même. Aimer Dieu revient dès lors à aimer d'un amour qui se dépossède de la volonté de posséder. Et c'est le Christ qui est la manifestation de cet amour. Et du coup, contempler le Christ initie à cette voie d'amour, à cette manière de vivre, si on décide de s'attacher à Dieu. Le Christ, donc, est la voie de cette manière de vivre, mais aussi, et à part égale, la charité concrète. L'attention à autrui qui opère et signifie, pour celui qui aime autrui, ce même détachement. Et cela, dans l'ordinaire, le plus commun, comme le raconte précisément la parabole de Matthieu 25 du jugement dernier, c'est-à-dire même pour celui qui simplement donne un verre d'eau. Ce mouvement-là, celui qui donne un verre d'eau pour autrui, simplement pour autrui, parce qu'il a soif, dans ce mouvement d'amour d'autrui, entre dans ce mouvement de dépossession, de la volonté de posséder, qui est ultimement ce que François de Sales appelle l'amour de Dieu. Alors ça posera chez François de Sales, comme dans toute la tradition moderne spirituelle, la question de l'amour pur, mais je laisse cela de côté. Alors François de Sales, pour vous faire entendre que je ne pars pas dans la spéculation mystique la plus haute, François de Sales donne un exemple très concret de cette dépossession de soi, de celui qui aime Dieu, comme cet acte de dessaisissement en raison même de la transcendance de Dieu. François de Sales va nous en faire comprendre la portée au plus élémentaire. L'appétit de manger, écrit François de Sales, est rendu grandement spirituel si avant que de le pratiquer, on lui donne le motif de l'amour. Ouais, si on se souvient. Et non, Seigneur, ce n'est pas pour contenter ce chétif ventre, ni pour assouvir cet appétit que je vais à table, mais pour, selon votre providence, entretenir ce corps que vous m'avez donné. Ça, c'est agir par amour de Dieu. Donc vous voyez, c'est pas l'amour de Dieu qui nous conduirait complètement hors de la terre. Non, au contraire, là c'est vraiment manger. Mais on mange pas pour satisfaire son ventre, mais pour entretenir le corps. L'amour de Dieu, ben c'est un orient, hein, j'entends. L'amour de Dieu réoriente, réordonne, disait la tradition cistercienne, nos actions et ce qui les inspire pour les porter à ce qui nous conduit à bien vivre. Et il s'agit de vivre ici en accord avec le don que Dieu a fait de l'homme à lui-même, en le prémunissant de toutes les aliénations dans lesquelles nous sommes toujours prêts à nous jeter. Autrement dit, dis-moi ce qui te porte à choisir ceci et je te dirai ce qui t'inspire, ton mobile. Alors, les milliers de gestes quotidiens qui nous animent sont révélateurs de la trajectoire d'ensemble que nous donnons à notre vie. Et sur cela, nous avons prise en raison d'une orientation fondamentale, la grâce, ou comme je le suggérais en commençant, par cette orientation fondamentale qui est donnée et par laquelle nous sommes appelés à accueillir aujourd'hui ce qui vient vers nous comme la possibilité d'un avenir, qui est ce que notre liberté permet de mettre en œuvre. Et cette liberté fondamentale, définitivement acquise et révélée par la vie et la mort et la résurrection du Christ, se met en œuvre dans les innombrables décisions que quotidiennement nous sommes invités à prendre. On va me dire, question, mais comment s'exerce une telle liberté alors même que nous sommes, j'allais dire, soumis, y compris intérieurement, à des forces qui ne viennent pas de nous-mêmes, à ces fameuses passions? Est-ce que les stoïciens n'auraient pas raison? La question a été prise de front à l'époque moderne. Au fond, on pourrait la traduire comme ça, est-ce que les mouvements intérieurs, les mouvements de l'âme, la joie, la tristesse, l'espérance, l'angoisse, la peur, la colère, est-ce que les mouvements de l'âme peuvent être une ressource pour mener sa vie en liberté? Ou ne vaut-il pas mieux s'en dégager complètement? Alors, c'est là que va se jouer la différence spirituelle ou pneumatologique, au fond, entre christianisme et stoïcisme. En effet, la tradition spirituelle chrétienne soutient que l'homme reçoit le concours de l'Esprit-Saint pour mener sa vie. Alors, oui, la proposition peut faire sourire ou agacer, parce que, évidemment, si on dit, écoutez, appuyez-vous sur l'Esprit-Saint, face à la gravité de certaines situations, on voit bien que ça pourrait tourner à la formule pieuse, et qu'il ne suffit pas, précisément, en christianisme, d'invoquer l'esprit comme une puissance extérieure pour en vivre et pour engendrer une liberté. La foi dans le soutien de l'esprit exige donc des chrétiens la possibilité de décrire, jusque dans la pratique, le mode d'action de l'esprit. Et saint Paul l'exprimait déjà dans la lettre aux Romains, chapitre 8, de la manière suivante. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Et Paul poursuivait, dans la lettre aux Romains, là je vais vous citer un extrait de Galates, mais qui joue de la même manière. Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors, on retrouverait dans cette liste, y compris des vertus stoïciennes. Et Paul concluait en disant, mais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Alors, toute la question, c'est comment reconnaître cet esprit, comment reconnaître dans la vie quotidienne, dans la vie humaine, ces impulsions de l'esprit. Alors, la tradition, là pour le coup, n'est pas stoïcienne ni hellénique, mais elle remonte au Père du désert. Au Père du désert qui avait appris à porter attention au mouvement du cœur et à ce qu'il permette de faire. Et le christianisme a développé une sagesse, pourrait-on dire, connue sous le nom de discernement des esprits, les esprits étant ce par quoi les pères se représentait la cause des mouvements intérieurs, le fameux mobile de notre François de Sales. Et cette tradition du discernement des esprits ne cessera d'être reprise tout au long du christianisme, et c'est là que se joue, au fond, essentiellement, la différence entre les chrétiens et les stoïciens. Saint Paul, en effet, avait identifié les passions, ce que les stoïciens appelaient les passions, à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Joie, espérance, maîtrise de soi, etc. La joie, la paix, la douceur sont des mouvements qui sont le fruit de l'esprit. Alors c'est là, vous me permettrez dans cette maison d'évoquer Ignace de Loyola, c'est là que Ignace, à qui sur ce point François de Sales est redevable, a été sans doute déterminant à l'âge moderne. L'esprit, évidemment, l'Esprit Saint ne se reconnaît pas immédiatement dans un mouvement de joie, d'amour ou de tristesse. Ces mouvements sont appellent plutôt un discernement, c'est-à-dire un sentir exercé, enraciné dans la charité qui a été également auquel on a été initié. Et ce sentir spirituel ne s'oppose pas à la raison. Au contraire, il collabore, j'allais dire également il veille sur elle. Autrement dit, ce sentir spirituel se rend plutôt attentif à tout ce qui nous atteint, y compris donc des pensées, à tout ce qui nous atteint et à la manière dont cela pèse sur nos choix. Que cela soit dû à l'exercice de notre raison, de notre délibération ou de nos élans amoureux, passionnels, etc. Et au fond, on pourrait dire que le discernement repose sur une base assez simple. Si la paix, alors vous allez sortir en sachant enfin comment discerner l'Esprit Saint, donc si la paix et la joie que j'éprouve sont durables, c'est signe que je marche dans la direction qu'ouvre l'Esprit de Dieu, et cela en vertu même, qu'est-ce qui permet cette traduction, cette identification, eh bien en vertu même de la parole première que Dieu adresse à l'humanité, soyez bénis. Ce que Dieu veut, c'est une bénédiction. Donc, quand j'éprouve joie, paix, douceur de manière durable, c'est que cette bénédiction se produit pour moi. Alors, évidemment, si c'était si facile à faire en pratique, eh bien, ça se saurait. Mais le principe n'est pas plus difficile que cela non plus, mais c'est le sentir. C'est-à-dire l'éducation du sentir, précisément, l'éducation, et c'est là que l'aide des stoïciens est très grande, à ne pas se laisser tromper, précisément par la signification de ces mouvements intérieurs. Donc, vous voyez, c'est au lieu même de la différence que la connivence est aussi la plus grande et sans doute la plus aidante. Alors, les stoïciens n'ont pas été les seuls à sous-estimer, ou non pas à sous-estimer, mais à estimer de peu de prix l'attention à ces mouvements intérieurs pour conduire sa vie. Puisqu'au sein même du christianisme, on a souvent été plus prompt à encourager de ne s'en tenir qu'à la seule raison des lois morales plutôt qu'au sentir intérieur des mouvements spirituels. Et le développement de la morale chrétienne a largement contribué à l'exercice d'une liberté raisonnable en dépassant évidemment les limites d'une morale proposée uniquement en termes de comportement à adopter, exprimée à travers la liste, comme on le faisait au Moyen-Âge, des vertus à choisir et des vices et rejeter. De même, cette morale chrétienne a largement contribué à l'avènement du sujet moderne, y compris à travers les ressorts souvent complexes de la casuistique. Casuistique dont tout l'intérêt était quand même de montrer la marge de liberté que l'homme conserve toujours en raison de la grâce de Dieu quand il y a hiatus entre les situations et les préceptes. Et cela, j'allais dire, la morale chrétienne l'a fait non moins, quoi, assez peu au fond en héritant pour le coup du stoïcisme, qu'à travers l'héritage aristotélo-thomiste. Mais on peut dire qu'à travers l'histoire de la morale chrétienne, on pourrait constater quand même un certain éloignement du christianisme, d'une sève première, de la sève première du christianisme, de cette foi au fond que l'on peut vivre de la résurrection de Jésus-Christ en raison même du don de l'Esprit qui est fait. Et que, j'allais dire, pour beaucoup de raisons, le christianisme a préféré encourager, et en particulier en raison de la philosophie aristotélicienne et de son poids dans la compréhension de la foi chrétienne, eh bien, a préféré recommander une morale de la raison, et là le stoïcisme a été évidemment un allié très précieux. Sans doute qu'aussi un élément qui a joué, c'est cette forme de cléricalisme qui est d'emblée allié à l'usage de la raison, puisque pour pouvoir, j'allais dire, déduire la morale par la raison, eh bien, il faut être soi-même un clerc, c'est-à-dire avoir l'usage de cette raison logique que seule, j'allais dire, une petite part, les prêtres et les confesseurs, pouvaient détenir. Surtout, et de manière juste, j'allais dire, pour rendre raison de cette évolution historique, il est évidemment difficile, risqué, parfois subtil, de pouvoir sentir intérieurement les mouvements intérieurs. Il est difficile de faire la différence entre une joie qui est une joie qui sera durable et une joie qui, au fond, est un enthousiasme de feu de paille. Donc, il y avait peut-être une prudence de ce côté-là. Et on peut cependant difficilement cacher que le christianisme a lui-même suspecté, et c'est ce point-là quand même sur lequel je voudrais insister, a suspecté et au fond mis à la marge toutes celles et tous ceux qui faisaient de ce sentir intérieur un soutien pour conduire sa vie de manière pratique. Les accusations d'abord d'illuminisme, puis de mysticisme et enfin de quiétisme, au fond, venaient très souvent porter sur ce sentir intérieur, c'est-à-dire sur cette capacité, cette confiance que l'on peut conduire sa vie à partir de la variation du mobile intérieur, la variation des mouvements intérieurs. Alors curieusement, au fond, le christianisme dans son histoire eut de la peine, pourrait-on dire, à croire au verset paulinien concernant le fruit multiforme de l'esprit. Que la douceur, la paix, la joie puissent servir de repère pour agir a été finalement difficilement cru et reçu. Peut-être est-ce une conséquence du poids du stoïcisme qui rendait improbable cette manière d'envisager la vie morale. Ce qui est certain, c'est qu'en mettant sous le boisseau cette ressource interne spirituelle, le christianisme contribuait lui-même à se rapprocher du stoïcisme, comme si le malentendu entre l'un et l'autre relevait, j'allais dire d'abord, d'une difficulté interne au christianisme à entendre le travail de l'esprit et à faire suffisamment confiance en cette présence de l'esprit à même l'existence humaine, au travail de la chair dans les affects de joie et de tristesse. Alors il est temps de conclure. J'aurais pu évidemment prendre ce sujet par bien des portes et je l'évoquais en commençant notamment. Cette question de la résurrection aurait pu être traitée par un tout autre abord. Mais au fond, ce que je voulais dire, c'est que si le christianisme s'est trouvé un allié dans le stoïcisme, c'est qu'il fallait bien, finalement, aux chrétiens, répondre à la question « comment vivre ici ?». Le stoïcisme, par sa proximité, fournissait au christianisme non seulement des attitudes, mais aussi une attention au quotidien dont les chrétiens firent leur miel. Mais ce « comment vivre ici », chrétien, devait prendre en compte la grâce de la résurrection qui travaille l'existence quotidienne, comme les écrits du Nouveau Testament ne cessent de le rappeler. Se dessinait alors ce que j'ai appelé ce principe pneumatologique de la régulation de la connivence entre le christianisme et le stoïcisme, avec ses risques de malentendus. Je fais donc l'hypothèse qu'on trouve cette possibilité de régulation dans le christianisme, précisément dans l'identification des mouvements de l'âme avec l'œuvre de l'esprit dans la vie des croyants. Ainsi, les passions, telles qu'elles furent réinterprétées par les auteurs spirituels chrétiens, devenaient les alliés de la liberté que l'homme reçoit comme grâce de Dieu, à condition d'être orienté par cet amour de Dieu, amour dépossédant de la volonté de posséder. Et c'est dès lors comme principe de régulation que joue cette attention à l'esprit qui travaille, en toute chair, à la conversion à une vie plus humaine. Alors que faire du stoïcisme? Eh bien, le lire, et vraiment le lire, le savourer, sans doute, mais cependant, un esprit chrétien ne peut pas entièrement le digérer, et encore moins l'engloutir. Et il subsistera toujours non pas un reste, le vieil os du stoïcisme, mais une différence, différence dont on pourra se réjouir. Alors on l'entendait, Stanislas Breton faisait tenir cette différence à la suite de saint Paul dans la croix. Et on pourrait évoquer aussi ce qui surgit sur la croix, de la bouche même du crucifié comme de son père, l'esprit. Cet esprit qui ne se tient enclos dans aucune frontière et qui murmure à l'oreille de chair de chaque homme pour sa conversion à une vie plus humaine que tous recherchent. Je vous remercie.
Bien, merci à nos deux orateurs de nous avoir ainsi mis en lumière, je dirais, à la fois les points de contact et en même temps les points de divergence profonds entre stoïcisme et christianisme. Et je crois que sans plus tarder, je vais tout de suite vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions ou éventuellement peut-être si Jacqueline Lagrée souhaite immédiatement réagir aux propos de Patrick.
C'est un peu dur de réagir parce que c'est pas parce que les deux mots finissent par isme qui sont tout à fait comparables, hein, on l'aura compris, et que ce que Patrick a montré, c'est quand même que quand ils se rapprochent, c'est qu'ils parlent pas de la même chose, parce que les affects auxquels s'intéresse François de Sales, les émotions, hein, qui sont quelque chose d'important, c'est pour lui des passions de l'âme. Pour les stoïciens anciens, les affects, c'est des mouvements du corps. Donc, c'est, en fait, ils ne parlent pas du même objet. Et c'est ça qui nous gêne, c'est que c'est les mêmes mots, mais ce n'est pas le même objet. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'exposé de Patrick montre bien, in concreto, enfin sur des exemples précis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand le stoïcisme est digéré, c'est plus du stoïcisme, c'est une espèce de truc mou. Non, mais c'est vrai, exactement. Enfin, c'est le stoïcisme qu'on sert au DRH pour améliorer leur management, parce que quand même, Coco, ça fait un peu moderne. Bon, non, ça, je crois que ça va pas. En revanche, le seul philosophe non chrétien qui ait insisté sur ce que tu as appelé le fruit de l'esprit, c'est quand même Spinoza, hein, c'est le seul. Et lui, il n'était pas du tout stoïcien. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous réagissiez. Parce que lui, je l'ai eu comme élève. Enfin, non, pas tout à fait. Pas, ça vous paraît bizarre ou ça vous paraît... parce que ce n'est pas la question de l'histoire des idées qui est intéressante, évidemment. L'histoire des idées, bon, ça s'est passé comme ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est pourquoi on est revenu au stoïcisme aujourd'hui. Mais je ne veux pas déconseiller quiconque de relire Sénèque. Au contraire, enfin, Sénèque, Marc Aurèle et Marc Aurèle sûrement. Mais c'est parce que, enfin, il me semble que c'est parce que les problèmes de Marc Aurèle sont toujours les nôtres. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour, c'est quoi la finitude, c'est quoi la mort. C'est, bah, bon, ça, c'est quand même des problèmes pérennes qui tiennent à la condition humaine. Oui. Pas exactement. Enfin, c'est... D'abord, ils étaient collègues. Bon, ça aide. Ils travaillaient dans le même endroit, au même endroit. Et c'est passé par le travail que Foucault a fait à la fin de sa vie sur le souci de soi, bon, qui est un concept stoïcien, c'est vrai, mais pas seulement. Vous disiez tout à l'heure que Ado avait insisté sur l'art de la vie, mais c'est aussi parce qu'il s'est intéressé à des philosophies anciennes qui impliquait qu'on vive ensemble. Les écoles philosophiques, c'était des lieux de vie. On y passait la journée, on mangeait ensemble, on se promenait ensemble, on faisait de la gymnastique ensemble, etc. Donc c'est vrai de ceux-là. C'est pas vrai de tous les anciens sur lesquels Ado a travaillé.
Tu serais d'accord, Jacqueline, pour dire qu'au fond, il y a une situation qui permet aujourd'hui, qui permet de comprendre ce retour au stoïcisme. J'allais dire, alors, outre les formes abattardies, un peu chic parfois, voilà. Mais dire, l'intérêt réel qu'on peut prendre à lire des stoïciens, y compris pour des chrétiens, pourrait tenir, j'allais dire, à la déficience d'une littérature spirituelle qui n'a pas trouvé peut-être un langage pour aujourd'hui très convaincant. Soit par défaut de dimension concrète. Ou parce que, j'allais dire aussi, on vient d'une époque de système philosophique où les dimensions concrètes de l'existence étaient assez peu prises en compte. Donc du coup, le stoïcisme, j'allais dire, lu sans trop se soucier de son organicité, hein, on le lit un peu comme les néo-stoïciens le lisaient, tire pour son côté simplement pratique.
Oui, avec quand même ce point qui me paraît très important, c'est que le stoïcisme n'est pas une école qui vous dit « faites ceci plutôt que cela ». C'est-à-dire que c'est pas un ensemble de règles qu'il faut appliquer. C'est une école qui apprend la discipline du désir, la discipline de la représentation, la discipline de la volonté. C'est-à-dire, face à telle situation, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi? Dans ce qui dépend de moi, sur quoi est-ce que j'ai une action complète, sur quoi j'ai une action partielle? C'est-à-dire que le stoïcien est rigoriste, mais il est surtout rigoureux. C'est-à-dire, mais oui, mais c'est important parce que des catalogues de choses à faire ou à ne pas faire, il y a qu'à lire les journaux féminins et peut-être aussi les journaux masculins pour trouver ça. Faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Toutes les morales traditionnelles sont basées là-dessus. Le stoïcien ne dit pas il faut faire ceci plutôt que cela. Il va à la source du choix qui fera préférer ceci plutôt que cela. On a parlé de Marc Aurèle qui lui dit t'as envie d'une femme, bon ben dis-toi ce que c'est l'acte sexuel. Et puis il détaille toutes les sécrétions qui s'y passent et en disant pas terrible. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Hypatia, une stoïcienne admirable de la fin du IVe siècle qui a été battue à mort et tuée par des chrétiens. et qui ne voulait pas se marier et qui avait un amoureux, un de ses élèves, qui, dans un grand spectacle, lui dédie un poème et lui amène sa flûte, rendant jaloux tous les autres élèves de l'école. Et le lendemain, Hypatia fait cours et elle s'amène avec un très joli tissu en je sais pas dans quelle matière, enfin en laine probablement, blanc, en boule, et puis elle dit « Octavius m'a offert une lyre, son Ola hier, je dois lui rendre un cadeau. » Et elle lui dit « Tu es amoureux de moi ? » Et bien voilà ce que c'est que l'amour. Et elle lui sort, elle ouvre le linge dans lequel il y a quelque chose de glauque et de rouge, et elle lui dit « Ça, ce sont des menstrues de femmes. Si tu m'aimes, c'est ça que tu aimes. » Et alors, horrifié, etc. Alors, bon, c'est un peu brutal, mais ça ne joue pas que sur ce genre de choses. Mais c'est quoi la Légion d'honneur ? C'est un petit ruban rouge. C'est un petit ruban rouge, c'est un colifichet. Voilà. C'est ça l'esprit du stoïcisme, c'est-à-dire dans chaque chose, analyse. Analyse tes préférences, analyse le principe qui guide ton action. Et je crois que c'est cet aspect aussi là, rigoureux. C'est pas de la soupe le stoïcisme, alors vraiment pas. Hein, ça a de l'ossature.
On entend bien, j'allais dire, les convergences avec le christianisme qui pourrait
sur le discernement.
Voilà. Oui. Revenir à ce qui fait se décider.
Alors, il y a certainement la question du pélagianisme, oui, c'est-à-dire, est-ce que la sainteté de l'homme est le fruit uniquement de son travail, ça c'est stoïcien, ou de la grâce ? Là-dessus, la coupure avec Augustin est forte. Mais moi, je dirais aussi que la coupure a été nette sur une question de théologie naturelle. Est-ce que Dieu est un tout seul ? Est-ce qu'il est monos tout seul ? Les stoïciens sont quand même, dans l'Antiquité, une des écoles philosophiques qui a pratiqué le plus radicalement la démythologisation, en prétendant que tous les noms des divinités du Panthéon ne désignaient que des puissances divines. On est bien d'accord. Donc, ils amènent un monothéisme rationnel dans une religion panthéiste. Et ce qui me frappe, moi, dans la lecture, par exemple, de Clément d'Alexandrie, c'est qu'il parle du Père. Ça, c'est le vocabulaire aussi stoïcien, on appelle Zeus Père. Il parle du Fils qui est Logos, et il parle jamais de l'Esprit. Hein, jamais de l'Esprit au sens de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. En revanche, à partir du moment où, avec Boès, on s'interroge sur comment dire philosophiquement un seul Dieu en trois personnes, et qu'on forge ce concept de substance qui n'existe pas dans ce même sens avant, c'est-à-dire où la substance n'est pas le support des accidents, mais une entité en soi et par soi, alors il y a un hiatus. Le hiatus, il est double. Hein. Il est sur la conception du Dieu, hein, et il est sur l'autosuffisance ou non de l'homme. C'est-à-dire... les stoïciens sont des penseurs de la finitude, évidemment, puisque le monde est fini recommence régulièrement. Mais il y a une sorte de puissance indéfinie de l'homme, du progressant jusqu'à la sagesse. Avec Augustin, la finitude devient radicale, il me semble. Et du coup, on a une différence entre un Dieu infini, tout puissant, et un homme fini, et faible. Disons, faible et faillible. Tandis que chez les stoïciens, l'homme et Dieu sont finis. Zeus reste tout seul, d'accord, après la conflagration. Mais enfin, il n'est plus grand-chose, cette espèce de... il est l'équivalent d'un spermatozoïde, quoi. Le feu spermatique, c'est la semence de tout ce qui viendra. Mais c'est rien. C'est une potentialité pure. Donc moi, je crois que le hiatus, théoriquement, il est sur les deux points. La théorie la conception théorique de Dieu et la conception pratique de l'homme. Non, l'humilité, ça n'a pas de sens. Hein, c'est de vouloir rester sur la terre. Non, le stoïcien, il n'est pas humble du tout. Je pense que c'est même pas un problème. C'est même pas une notion qui affleure. Hein. Mais si on refuse le repentir, si on recommune quelque chose de vain, si toute l'action vise... enfin, l'ambition, c'est de devenir un sage. Si tout est porté vers l'accomplissement maximal, il n'y a pas de place pour l'humilité. Et si on se trompe, c'est une erreur. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas le sens du péché. Parce que le péché, ce n'est pas simplement la transgression. C'est aussi le défi. Ce qui, du coup, fait que toute faute est grave. Ben, gravissime, parce que comme on peut se noyer dans 1 mètre ou dans 5 mètres d'eau, eh bien de même, je dis toujours ça à mes étudiants, que faire une faute d'orthographe, c'est aussi grave que tuer son père et sa mère. Mais bon, ils ne me croient pas.
Ils ne sont pas assez stoïciens.
Non, c'est juste pour leur dire que l'orthographe, c'est important. Je n'ai pas dit que tuer son père, c'était pas plus grave que de faire une faute d'orthographe. Hein. C'est dans l'autre sens que ça marche.
Une autre question ? Moi, je peux peut-être en poser une en attendant. Oui. Mais malgré tout, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire aussi que finalement, dans vos deux exposés, il s'agit de voies vers la liberté, mais une liberté comprise de façon tout à fait différente par toute une discipline de la raison qui permet de juger et d'avoir... si on a un jugement droit, on se libérera des passions. Et puis, par la docilité à l'esprit, et donc, ce qui est quand même une manière assez différente, et du coup aussi, par, si on fait référence à ce que vient de dire Michel, le don de la grâce qui libère l'homme, ce qui est une toute autre différence.
Je réponds, mais je t'en passe le micro. Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est deux conceptions de la liberté, sauf que, le stoïcisme, c'est la liberté comprise à partir d'une conscience de la nécessité. Tandis que le christianisme, c'est une liberté qui dialogue avec une autre liberté. Et ce n'est pas du tout la même conception de la liberté.
Bon, si ce n'est que, pour le dire autrement, tu me corrigeras si je me trompe sur le stoïcisme, mais ce qu'il y a, souvent en lisant des textes stoïciens, alors pour le coup pas néo-stoïciens, mais des stoïciens purs, impériaux. Me dit au fond, ce qui résonne assez nettement comme différence, c'est la place justement faite à une autre liberté, c'est-à-dire la place faite à une altérité fondatrice qui est Dieu dans le christianisme et dont on trouve absolument pas de trace dans le stoïcisme, même si la liberté que le sage acquiert est une liberté, dont on mesure dans la vie de ces hommes l'effectivité. Donc c'est pas une différence de degré, mais c'est vraiment une différence totale de conception.
Oui, et moi je dirais qu'il n'y a pas dans le stoïcisme de concept de création et de créativité. Puisque le monde existe de toute éternité, il explose au bout de 500 000 ans et il explosera un nombre indéfini de fois. Après chaque explosion... ou toute implosion, si on préfère, tout se résout à une petite boule de feu qui est Zeus, et à partir de cette boule de feu, le monde se reconstruit. Et il se reconstruit à l'identique. Donc il n'y a pas de création, mais il n'y a pas de créativité. Hein, enfin, au sens où nous, on l'entend. Alors on dira, il y a de l'invention, mais oui, mais l'invention, c'est de la découverte, c'est pas de la créativité. Alors que le concept de création a apporté l'idée que l'homme, à partir de Lactance, que l'homme est co-créateur, par son travail, et donc qu'il y a une créativité proprement humaine qui se manifeste, par exemple, dans l'art, dans la littérature, dans... Alors maintenant, aujourd'hui, on dira aussi dans la politique, dans la morale, enfin que tout n'est pas donné une fois pour toutes. Dans les pensées antiques, qui ont une autre conception du temps que nous, qui ont une conception cyclique, il ne peut pas y avoir de créativité. Dieu n'est pas créateur, il est fabricateur. Il est fabricateur à partir d'une énergie qui est la sienne. Enfin, au fond, l'apport du stoïcisme, en quoi il est plus moderne, c'est qu'il a remplacé un dieu fabricateur à partir d'un modèle, comme on le trouve dans le Timée de Platon, par un dieu organisateur à partir d'une énergie. Il a une conception énergétique de l'âme comme un élément tonique qui tient ensemble toutes les parties du corps, et quand l'âme s'en va, eh bien, le corps se désagrège. Je crois que on ne peut pas penser la liberté, nous, modernes, sans penser la créativité. Être libre, c'est la capacité de faire advenir au monde quelque chose de nouveau. Et pour nous, qui avons fait de la génétique, tout enfant est absolument unique, singulier. Il a un programme génétique particulier, etc. C'est-à-dire que c'est un nouveau visage d'humanité qui arrive avec tout enfant. Et ça, les anciens n'en ont pas du tout le sentiment. Un enfant, ça répète un ancêtre, ça répète quelque chose qui a déjà existé.
Dans le concept de création, du côté du christianisme, j'allais dire dans... C'est vraiment à articuler avec cette œuvre de l'esprit. Je peux, si on oui, peut dire, par exemple, dans la finale de l'Évangile de Jean, voilà, il y aura bien d'autres choses encore. C'est-à-dire que la vie du Christ ne clôt pas, mais il y a cette possibilité inscrite même dans l'accomplissement de la nouveauté. Alors ça, et qui est la fonction même de l'esprit. Donc c'est vrai que là, il y a une...
Mais il y a une révolution intellectuelle. Ouais.
Il y a une question. Oui, il y en a même deux. Patrick Garcéan, oui.
Oui. L'homme ordinaire, oui. Parce que ce qui caractérise le sage, c'est qu'il a une âme totalement tonique. Non mais c'est ça, il faut se rappeler quand même que le stoïcisme c'est une physique, hein. L'âme de l'ignorant, elle est comme la main au doigt ouvert. L'âme de l'apprenant, elle est la main qui se ferme, et l'âme du sage, c'est le poing tenu serré dans la main. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que physiquement, d'un point de vue physique, l'âme du sage, elle est de même nature que l'âme de Zeus, et elle en est d'ailleurs une partie. Et seul le sage connaît tellement la cohérence de tous les événements qu'il sait que sa mort, c'est maintenant. C'est la loi du monde veut qu'il meure maintenant. Et c'est pourquoi Zénon peut dire « Ok Zeus, j'ai compris. J'ai compris, tu me fais signe que c'est le moment. » Mais il se tue pas. Il se laisse dépérir comme les sages brahmanes. Et jamais le stoïcisme n'autorise le suicide de l'ignorant, du non-sage. Et comme il y en a peut-être un sage tous les 10 000 ans, eh ben, ça ne fait pas beaucoup de suicides autorisés.
Oui ?
Ce sont des catégories différentes, parce que pour la conception de, pour l'anthropologie qui est celle de François de Sales, l'âme n'est pas de même nature que le corps. Le corps est mortel, l'âme est immortelle. Donc, ce sont des passions de l'âme qui ont des manifestations corporelles. Descartes écrit, qui est mécaniste, écrit un traité des passions de l'âme avec des manifestations corporelles. Bon. Chez les stoïciens, l'âme est un corps, c'est un souffle chaud. Et les âmes des sages sont sèches et chaudes, et les âmes des femmes et des ivrognes sont humides et froides. Voilà. un peu lourd, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est totalement différent parce que les passions sont d'abord des mouvements corporels pour les stoïciens. L'amour, c'est d'abord un mouvement qui vous porte physiquement vers autrui. La peur, c'est un mouvement de fuite. Et ce mouvement a sa transposition dans des représentations de l'âme. C'est le modèle inverse. Tandis que chez les gens du XVIIe qui sont marqués par une anthropologie dualiste dans l'ensemble, les passions sont des passions de l'âme et elles ont des manifestations corporelles.
Henri-Lo ?
Oui.
J'en sais rien. Parce que, je ne sais pas exactement à quoi tu penses, mais en plus, est-ce que ça ne serait pas... C'est généralement des mixtes d'aristotélisme, enfin... Si tu penses à mon petit camarade Luc, c'est Luc Ferry, dont j'ai été la collègue à Caen. C'est un mixte un peu informe de trucs qui sont tirés du stoïcisme banal, enfin de l'aristotélisme, de l'éthique à Nicomaque, de ce qu'ils ont lu des sagesses zen, enfin. André Comte-Sponville, il est plus authentiquement stoïcien, lui. Beaucoup plus. Et alors oui, lui, je serais d'accord de dire qu'il te le désespoir et la béatitude. Sauf que un stoïcien dirait pas le désespoir. Mais c'est vrai que André Comte-Sponville, il est d'abord spinoziste puis stoïcien. Mais il a une ossature plus forte. Enfin, je veux dire, il est plus constant dans ses références, il est plus rigoureux dans ses principes. Et ce en quoi tu as raison, c'est que lui, il va chercher dans le stoïcisme et dans le spinozisme de la quatrième partie de l'éthique et dans Montaigne du livre 1 des éléments pour guider la vie, quoi. Et pour guider la vie, alors là, spécifiquement dans le refus de toute référence religieuse, dans le refus primitif. Et assumer, etc.
Pas du tout. Pour le coup, celle des stoïciens, c'est-à-dire qui n'est pas corporaliste.
J'en sais rien.
Je l'ai relu, en fait, pour ce soir. Le
petit traité des grandes vertus.
Le petit traité des grandes vertus. Traité des petites vertus. Non, oui, c'est ça.
Le petit traité des grandes vertus. Qui est un beau livre.
Qui est vraiment un beau livre.
Un beau livre. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce livre.
Et dans son sens, c'est vraiment un néo. C'est une validation, mais qui ne cherche pas à être orthodoxe. Ah,
on a parlé d'Ado tout à l'heure. Oui. Hein. Ado, tout le monde le sait quand même, il a été chrétien, il a été prêtre. Il a quitté la prêtrise pour des raisons qui lui sont propres. À ce moment-là, il est devenu chercheur au CNRS, il a travaillé sur la philosophie antique. Il a quand même été très marqué dans sa lecture de la philosophie antique par sa tradition chrétienne. Et quand j'étais une jeune philosophe pleine de morgue, j'avais un jour rendu compte d'un livre d'ado en disant « Oui, tout ça, ça va bien, les expériences spirituelles, vous êtes en train de plaquer du christianisme sur la philosophie antique, c'est pas sérieux. » Comme Ado était un homme admirable, il m'a invité à dîner. Il m'a dit « Il faut qu'on en discute autour d'un verre » et il m'a invité à manger un midi à Paris. Et on en a discuté effectivement beaucoup, mais dans sa présentation des écoles de vie antique, qui est très différente du travail qu'il a fait sur Marcus Victorinus et qui est du travail de pure érudition, il a essayé au fond de concilier sa tradition première et puis son objet second. Donc lui, je ne dirais pas qu'il était néo-stoïcien, hein, mais il était un amateur du stoïcisme marqué par une tradition spirituelle chrétienne. T'es d'accord ? Ce qui peut-être lui a permis de mettre l'accent dans le stoïcisme sur des choses auxquelles, avant lui, on n'avait jamais fait attention. Et de leur donner un second souffle. Ado était un grand monsieur. Quand on lit ça, on ne peut plus rien dire. Bon, et ben.
Voilà, mais écoutez, il me reste
à remercier
vivement nos deux conférenciers.